Vous écoutez « On lit pour vous ».
Appuyez l'enseignement de l'art, un texte de Jonathan Sema et Anaïs Enzelomona, publié le 1er décembre 2025 dans « La liberté ». À l'origine de ce projet de l'organisme Mentoring Artists for Women's Art, MAWA, on retrouve deux artistes et éducatrices, Dawn Knight et Yvette Senerini. Cette dernière, qui porte plusieurs casquettes, conjugue depuis plusieurs années deux attachements intimement liés, la création artistique et la transmission. Yvette Senerini est diplômée d'un baccalauréat en éducation. Pendant 5 ans, elle enseigne les arts visuels avant de compléter un baccalauréat en beaux-arts. Aujourd'hui, son travail s'inscrit au croisement de la pédagogie et de la pratique artistique au sein de l'organisme MAWA. L'organisme a pour mission de promouvoir et soutenir les carrières des artistes femmes et de la diversité de genre, affirme Yvette Senerini. Et puis cela, on le fait à travers l'éducation. Ainsi, MAWA propose principalement des formations, du mentorat et de l'éducation artistique, mais aussi des outils éducatifs, comme le guide pédagogique Résilience, 50 cartes d'art autochtones et son guide pédagogique, fondé sur une exposition commissionnée par Lee-Anne Martin et son guide pédagogique auquel Dawn Knight et Yvette Senerini ont contribué. Appuyé. Comme le souligne Yvette Senerini, tous les enseignants sont mandatés pour enseigner les arts visuels à tous les niveaux, même sans formation spécifique. Il arrive donc, selon l'artiste, que les enseignants réalisent des activités parfois répétitives, où tous les élèves font la même chose, explique-t-elle. Les enseignants n'ont pas toujours de vraies expériences en arts visuels ou même une certaine familiarité à observer des œuvres d'art, confie Yvette Serenini. Ils peuvent se sentir intimidés par tout ça. Les ressources proposées par Art Alive ont donc pour but de venir combler ce manque en proposant des ressources qui poussent à la réflexion tout en étant ancrées dans la diversité manitobaine. Art Alive, ça fait 3 ans que ça mijote, explique Yvette Senerini. Moi, je travaille à temps partiel et ma co-créatrice, Dawn Knight, est enseignante. Elle travaille à temps plein. Elle travaille avec moi pendant l'été. On prend beaucoup de grandes décisions ensemble. Cet automne, on a décidé que le contenu n'était pas 100% fini, mais qu'il était quand même assez complet pour venir en aide à des enseignants. On voulait que ça sorte aussitôt que possible pour servir les enseignants cette année. Ainsi, le site web interactif est pensé pour être intuitif et accueillant, pour être utilisé aussi bien par les enseignants que par les élèves de façon plus autonome. Coloré, le design de la plateforme a été confié à Derek Hogg, Amphibian Designs, avec une esthétique qui, elle aussi, contribue à rendre l'art compréhensible. Au regard des artistes de la province présents sur le site, Yvette raconte avec humour que la sélection a été un vrai casse-tête et que la liste n'est pas exhaustive. Elle avait à cœur de présenter des artistes que les élèves et visiteurs du site peuvent croiser dans la rue, dit-elle, voir exposer à Winnipeg, ou bien même découvrir pour la première fois. Il semble que la forme et le type d'art aient eux aussi leur importance. Sur la plateforme, on retrouve l'art visuel sous toutes ses formes, avec par exemple de la peinture, de la sculpture, du perlage, en passant par de la gravure ou même du collage. On voulait avoir une diversité d'identités, assure Yvette Senerini, toutes sortes d'identités. On voulait aussi une variété de médiums, et pas juste parler de peinture et de sculpture. Ça, c'est super important, mais traditionnel. C'est ce à quoi tout le monde s'attend quand on pense à l'art visuel. Et on voulait montrer toutes les autres pratiques contemporaines, toutes les nouvelles choses excitantes que les artistes sont en train de faire avec des matériaux qui ne sont pas traditionnels. Francophonie. Grâce au moteur de recherche du site web, il est possible de réaliser une recherche par mots-clés et les visiteurs peuvent ainsi filtrer par thème ou identité. On peut mettre un artiste francophone, puis ça va donner une liste. On peut mettre artiste vivant avec des handicaps, artiste LGBTQ+, ou queer. Les enseignants peuvent aussi mettre des mots-clés comme la nature, les arbres, les animaux. À ce jour, bien que disponible uniquement en anglais, le site web représente pour Yvette Serenini une opportunité de faire redécouvrir des artistes, car parfois, on ne sait pas quels sont les artistes francophones, ajoute-t-elle. Ainsi, on retrouve Anna Binta Diallo, Jacqueline Hébert, Cato Cormier, Dominique Ré, Mélanie Roquin et tant d'autres. Art vivant. Avec le soutien de MAWA, Art Alive a déposé une demande de subvention auprès de Francofonds pour financer la traduction confiée à Louane Bourdeau de la Maison des artistes visuels francophones. La version française, intitulée « Art vivant », permettra de rendre les ressources accessibles aux écoles francophones et d'immersion. Prévue pour 2026, la traduction du site en français illustre l'engagement de MAWA et d'Yvette Serenini envers la francophonie. On a 3 sites éducatifs maintenant qui vont être traduits en français. MAWA voit ça comme un devoir communautaire. Et puis moi, comme francophone, j'aime travailler sur des projets comme ça. Comme elle l'explique, la traduction s'agit d'une étape essentielle. Pas d'une condition, mais presque, dit-elle. Elle ajoute, « Si je travaille sur un projet, je veux qu'il soit disponible à ma communauté aussi. » Cette démarche est autant éducative que sociale et communautaire. Elle permet de former des jeunes tout en contribuant à la démocratisation de l'art, en cherchant à ce que les élèves puissent se voir et comprendre que leur voix a une importance, espère Yvette Serenini. Art vivant est donc un projet qui a vocation à évoluer, à continuer de faire vivre l'art dans les salles de classe et à soutenir les enseignants avec des œuvres qui parlent aux jeunes ou même des sujets qu'ils étudient en classe. Un beau petit paquet, conclut Yvette Serenini. C'était « Appuyer l'enseignement de l'art », un texte de Jonathan Sema et Anaïs Enzelomona, publié le 1er décembre 2025 dans La Liberté.
Prenez soin de vous de la tête aux pieds. Un texte de Marie-Ève Martel et Frédéric Charret, paru à l'hiver 2026 dans Virage. Tête, épaules, genoux, orteils. Ici, cette comptine enfantine devenait votre mantra pour la nouvelle année. En 2026, prenez soin de vous, une partie de votre corps à la fois. Cerveau, faites travailler vos méninges. Casse-tête, mots cachés et sudoku, c'est bien dans une certaine mesure pour garder l'esprit alerte, mais leur effet demeure très limité. Ce qui compte, ce ne sont pas nécessairement ces petits exercices, souligne le Dr Stéphane Lemire, gériatre interniste et président de la Fondation Âge. Il faut surtout stimuler les fonctions exécutives, planifier une séquence d'actions, s'adapter à des changements dans la routine et prendre des décisions basées sur des informations. Celui qui publiera « Vivre après 50 ans » au début de l'année insiste. Ses habiletés sont sollicitées naturellement au travail, mais beaucoup moins à la retraite. d'où l'importance de choisir des activités qui font appel à plusieurs capacités cognitives et facultés mentales. Organiser un voyage, par exemple, est un excellent moyen d'exercer son cerveau. Yeux, sortez vos lunettes de soleil, même en hiver. On associe généralement les lunettes de soleil aux journées à la plage, mais on oublie qu'elles sont tout aussi utiles lors d'une marche en hiver. Erreur. Les rayons ultraviolets, UV, traversent les nuages en toute saison et la neige peut en réfléchir jusqu'à 80 %. Résultat, vos yeux reçoivent une double dose de rayonnement, même lors d'une courte balade par temps froid. Avec l'âge, ils deviennent plus fragiles. Une exposition répétée peut accélérer l'apparition de la cataracte ou de la dégénérescence maculaire. Porter des lunettes offrant une protection UV à 100 % est donc un geste simple pour préserver sa vision. Petit plus non négligeable. Elles réduisent l'éblouissement, qui complique parfois la conduite ou la marche, et protègent vos yeux du vent sec et du froid piquant. Peau. Évitez les bains chauds. Avec l'âge, la peau tend à s'assécher, car les glandes responsables de produire la sueur et le sébum tournent au ralenti. Notre peau perd de sa capacité à s'hydrater, rappelle la dermatologue Danielle Brassard, propriétaire de la clinique D à Laval. Certains facteurs, comme les médicaments, l'alcool ou les produits nettoyants, accentuent le phénomène, tout comme les bains relaxants qu'on prend pour soulager les raideurs musculaires. Et non, l'eau chaude n'hydrate pas la peau, bien au contraire. Ça dilapide toute la couche de sébum qui protège la peau. Alors quand on prend des bains trop souvent, on est plus à risque de développer un eczéma ou d'avoir la peau sèche qui pique, prévient la docteure Brassard. Pour protéger sa peau, mieux vaut limiter les bains à une fois par mois, privilégier les douches courtes et, surtout, se tartiner de crème hydratante à la grandeur du corps. Pas besoin de produits haut de gamme. La meilleure crème, c'est celle que vous appliquerez, insiste la spécialiste. Poumons. Respirez profondément. Respirer, ça semble aller de soi, mais avec l'âge, la capacité pulmonaire peut diminuer. Heureusement, quelques gestes simples peuvent aider à préserver vos poumons. L'activité physique, comme la marche en plein air, contribue déjà à maintenir une bonne capacité respiratoire. L'Association pulmonaire américaine recommande aussi de consacrer 5 à 10 minutes par jour à de simples exercices respiratoires, qui améliorent à la fois l'oxygénation et la détente. En voici deux faciles à intégrer à votre routine. Respiration à lèvres pincées. Inspirez lentement par le nez, puis expirez doucement par la bouche en pinçant légèrement les lèvres, comme si vous souffliez sur une bougie. L'expiration doit durer environ deux fois plus longtemps que l'inspiration. Respiration abdominale ou diaphragmatique. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous sur le dos. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche en le dégonflant. Cœur. Dormez bien. Le manque de sommeil peut fragiliser le cœur en augmentant le risque d'hypertension, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, AVC, rappelle la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. La lumière du jour est un puissant régulateur du rythme circadien qui régule les cycles de veille et de sommeil. Si on passe la journée dehors, le corps sécrète la bonne quantité d'hormones, dont la mélatonine, qui favorise l'endormissement, explique le docteur Stéphane Lemire. Même un café matinal près d'une fenêtre aide à synchroniser votre horloge biologique interne. À l'inverse, les écrans et l'alcool perturbent le repos. L'alcool peut donner l'impression de faciliter l'endormissement, mais il fragmente le sommeil profond, prévient le docteur Lemire. Une routine calme, comme la lecture ou des exercices de respiration, est préférable et surtout plus efficace. Attention aux siestes excessives ou prolongées. Elles peuvent cacher un problème de santé. Système digestif. Dorlotez votre microbiote. Les millions de micro-organismes qui cohabitent dans vos intestins sont essentiels au maintien d'une bonne santé digestive et immunitaire. Mais avec l'âge, votre système digestif change, ce qui peut nuire à la diversité de votre microbiote, souligne la Fondation canadienne de la santé digestive, FCSD. Pour cette raison, elle recommande d'inclure des probiotiques à votre alimentation, que ce soit en capsule, en comprimé, en gouttes ou même dans votre yogourt. En outre, maximisez votre apport en fibres. C'est de celles-ci que se nourrissent les bactéries qui composent votre microbiote intestinal. On en retrouve particulièrement dans les champignons, mais aussi dans les légumineuses, le blé et l'avoine, rappelle l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. Oh, pensez aux protéines. On associe spontanément la santé des os au calcium et à la vitamine D, mais les protéines jouent elles aussi un rôle clé. Les régimes fournissant les quantités recommandées de protéines sont associés à une meilleure masse osseuse, comme l'explique Ostéoporose Canada, tandis qu'un apport insuffisant augmente le risque de perte osseuse et de fracture. L'American Journal of Clinical Nutrition confirme « Un apport élevé en protéines profite aux os, mais uniquement si l'apport en calcium est suffisant. » Selon la Fondation Age, au moins un quart des personnes aînées ne consomment pas assez de protéines pour répondre à leurs besoins. Elle recommande donc d'inclure à votre alimentation de 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids santé, en variant les sources. Viande maigre, poisson, produits laitiers, œufs, légumineuses et noix. Jambes. Entraînez votre équilibre. Selon une étude récente de la Mayo Clinic, une référence internationale en matière de santé et de recherche médicale, le temps pendant lequel une personne peut rester en équilibre sur une seule jambe constitue un bon indicateur du vieillissement neuromusculaire, et ce, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. D'où l'importance de prendre quelques minutes par jour pour s'exercer. Pas besoin de matériel compliqué ni d'équipement sophistiqué. Tenez-vous simplement en équilibre sur une jambe pendant 20 à 30 secondes, puis changez de jambe. Si c'est trop difficile au début, commencez par de courtes périodes et augmentez progressivement. Pour aller plus loin, des activités comme le tai chi, la marche arrière ou l'utilisation de planches d'équilibre sont d'excellents compléments. Ces exercices permettent de renforcer vos jambes, améliorent votre posture et surtout aident à prévenir les chutes. Pieds écrasés. Il n'y a pas que les poumons et la santé cardiovasculaire qui souffrent du tabagisme. Vos pieds peuvent aussi écoper. En effet, une personne qui fume multiplie par 3 son risque de développer une maladie vasculaire périphérique. Et ce risque augmente proportionnellement avec le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, indique Santé Canada. Les symptômes comprennent des douleurs persistantes aux jambes, des plaies aux pieds ou aux orteils qui guérissent lentement, une croissance lente des ongles d'orteils ainsi que des jambes ou des pieds froids. La circulation sanguine vers les extrémités étant plus difficile, les fumeurs sont plus à risque d'avoir les pieds enflés et de souffrir d'engelures, de tendinite ou de bursite. Bonne nouvelle, toutefois, arrêter de fumer produit des effets positifs immédiats. Il n'est donc jamais trop tard pour agir. Une approche globale à petits pas. Prendre la décision d'améliorer votre santé peut vous sembler un défi colossal à relever. C'est pourquoi changer toutes vos habitudes en même temps peut mener à l'échec. La clé? Avancer pas à pas et cibler une seule habitude à changer. Une fois celle-ci adoptée, ou abandonnée selon le cas, il sera possible de vous attaquer à la prochaine. Ainsi, les résultats positifs vous encourageront à persévérer. Surtout, rappelle le gériatre interniste Stéphane Lemire, tout est interconnecté. Parfois, les gens veulent une solution à un problème, mais ils doivent considérer celui-ci dans une approche intégrée, souligne-t-il. Faire plus d'activités physiques, ce n'est pas seulement une question de kilos en moins, rappelle-t-il. Bouger plus pourrait bien vous libérer de ce fichu mal de genou qui vous embête depuis des mois, peut-être même des années. C'était « Prenez soin de vous de la tête aux pieds », un texte de Marie-Ève Martel et Frédéric Charret, paru à l'hiver 2026 dans Virage.
L'espoir d'une grande avancée en psychiatrie. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. Moins 80 degrés Celsius, par un tel froid, de l'eau chaude jetée en l'air se changerait aussitôt en glace, et un humain survivrait environ 3 minutes. C'est pourtant à cette température extrême que seront rangés des milliers d'échantillons sanguins dans une pièce exiguë de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, le COSUM. Avec un soupçon de chance, une forte dose d'intelligence artificielle, IA, et un travail colossal, cette collecte pourrait aider à résoudre deux des plus grands mystères de la psychiatrie, savoir ce qui soulagera ou non chaque patient et prédire qui risque de rechuter. Encore aujourd'hui, le premier traitement échoue une fois sur deux et des gens souffrent pendant des mois ou des années, constate le neuropsychiatre Simon Ducharme, qui dirige l'ambitieux projet SPARK pour Solutions for Psychiatric AI Research and Knowledge. La pratique en psychiatrie de mon père, en 1995, ajoute-t-il, et la mienne aujourd'hui, c'est presque pareil. On n'a presque aucun test biologique fiable. Signaux cachés recherchés. Son objectif ? Amasser des millions et des millions de variables, pendant au moins 10 ans, pour tout offrir aux scientifiques et aux experts en IA, et les laisser croiser toutes ces informations à la recherche de signaux cachés. Depuis quelques années, les pistes se multiplient. Nombre de patients dépressifs affichent par exemple des taux très élevés d'inflammation dans le sang et guérissent mieux lorsqu'ils combinent anti-inflammatoires et antidépresseurs selon certaines études expérimentales. Toutes ces recherches demeurent cependant à petite échelle et leurs résultats ne sont jamais reproduits, ce qui entraîne trop d'incertitudes, souligne le docteur Ducharme. Sa biobanque permettra enfin aux scientifiques de mettre leurs conclusions à l'épreuve, car il est rare de réunir une telle masse de données recueillies dans un contexte clinique réel, tout diagnostic confondu, dépression, schizophrénie, troubles de la personnalité, abus de substances et autres. Pour l'instant, expose le docteur Ducharme, les psychiatres catégorisent leurs patients en fonction de leurs symptômes, comportements et histoires, même si les anomalies biologiques sous-jacentes pourraient être bien différentes. Un peu comme si un garagiste présumait que toutes les voitures du même modèle avaient le même problème mécanique, faute de pouvoir accéder au moteur ou aux témoins du tableau de bord. Le neuropsychiatre cherche en quelque sorte l'équivalent de tels témoins lumineux dans le sang, les cheveux, le cerveau, l'environnement, les habitudes et les antécédents des participants. Aussi graves que puissent être les maladies psychiatriques, même à l'autopsie, on ne décèle aucun changement pathologique spécifique dans le cerveau, note-t-il. Des millions de pièces. En oncologie, le profil génétique des tumeurs cancéreuses guide le choix des traitements depuis près de 20 ans. Mais le cerveau et les gènes sont d'une complexité sans égale et se voient sans cesse remodelés par l'environnement et des expériences personnelles. Sans l'IA, aucun humain ne pourrait résoudre un casse-tête de plusieurs millions de pièces qui peuvent s'emboîter d'une infinité de manières. Jusqu'où la technologie nous conduira-t-elle ? Même les experts l'ignorent encore. Certains croient que faire des prédictions ne sera jamais possible, rapporte le docteur Ducharme. Personnellement, je ne m'attends pas à une révolution, mais j'espère qu'on réalisera des progrès. Un coffre-fort scientifique. Les millions d'informations collectées dans le cadre du projet SPARK tiendront presque toutes dans un lieu improbable, un congélateur coincé dans un tout petit local de l'Institut de recherche du COSUM. L'appareil abrite déjà les échantillons de sang de 200 patients de l'Institut Allen Memorial et de l'Institute Douglas. Quand le neuropsychiatre Simon Ducharme ouvre les boîtes qui les contiennent, un nuage de buée se répand dans l'air. Certains échantillons sont cordés dans des tubes de 0,3 ml pour économiser l'espace. d'autres dans des tubes spécialement conçus pour préserver le matériel génétique des cellules pendant 10 ans. Leur contenu pourra ainsi être réanalysé au gré des besoins et des découvertes, précise Zaleh Mehboudi, coordinatrice de recherche clinique. Les données de 141 premiers participants ont été rendues disponibles cette année. Les éléments sous la loupe. Cheveux. Blond, brun, gris ou roux, peu importe. Un millier de cheveux seront collectés dans les hôpitaux de l'Université McGill au cours des 10 prochaines années, puis envoyés en Allemagne pour analyse. Le but ? Déterminer le niveau moyen de diverses hormones dans les 3 mois précédant la cueillette, puisque celles-ci s'accumulent dans la chevelure. Certains taux sont associés à la dépression, à l'anxiété et à d'autres troubles psychiatriques. Chaque centimètre de cheveux correspond à un mois de vie. Sang. Les cellules sanguines conservées dans les biobanques Spark stockent une mine de renseignements très précis. Elles permettent par exemple d'identifier tous les gènes d'un individu et de savoir lesquels travaillent et lesquels semblent endormis. Une information cruciale puisque l'activité des gènes influence la bonne marche de l'organisme, y compris du cerveau. D'autres analyses serviront à mesurer le niveau de milliers de protéines et métabolites. Les premières sont fabriquées par les gènes pour faire fonctionner le corps. Les seconds sont produits par les processus corporels, hormones, neurotransmetteurs, déchets, etc. Cerveau. Les structures et le fonctionnement du cerveau des participants seront aussi immortalisés. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, permet notamment de scruter la communication entre diverses régions clés, comme l'amygdale, qui est liée aux émotions et à la peur. À la manière de Google Maps, ces images révéleront où se situe l'équivalent d'embouteillage ou de barrage routier. Les scientifiques pourraient un jour découvrir que certains de ces dysfonctionnements sont la signature de troubles précis. Jusqu'à maintenant, estime toutefois le docteur Ducharme, l'impact de l'IRM sur la pratique clinique en psychiatrie a été lamentable. Questionnaire. Tous les participants seront interrogés en personne et répondront à des questionnaires sur leurs expériences, leurs habitudes de vie, leur santé, etc. Ils passeront également des tests cognitifs. Leur réponse au traitement prescrit sera parallèlement enregistrée tous les 6 mois. Ces suivis permettront de relier leurs données biologiques à l'évolution de leur maladie sur une décennie. Pareilles informations sont précieuses, puisque les troubles mentaux ne sont pas statiques. Ils peuvent disparaître, s'aggraver ou changer de forme pour des raisons mal comprises. En savoir plus. 1 sur 3, c'est la proportion des Canadiens qui seront touchés par une maladie mentale au cours de leur vie. Source gouvernement du Canada. C'était l'espoir d'une grande avancée en psychiatrie. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.